Bonsoir. Le processus électoral en République démocratique du Congo est en péril au stade actuel au regard de la détérioration croissante du contexte sociopolitique et du manque de consensus des parties prenantes. Déclaration de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL en sigle, faite hier, mercredi à Kinshasa devant la presse. Pour le coordonnateur de cette structure, la gestion du processus électoral en cours s'écarte de la consolidation de la démocratie. Comment analyser cette déclaration? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous accueillons Emmanuel Kazadi, coordonnateur adjoint de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL. Emmanuel Kazadi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Marcel Makolo Kotambola, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Vous êtes pasteur et communicateur de la majorité présidentielle. Et enfin, Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, mais également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Jérôme Bonceau, bonsoir.
Bonsoir cher ami Donat, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix, bonsoir au révérend pasteur Emmanuel Kazadi, bonsoir au révérend pasteur Marcel Makolo. Je pense que cette émission qui est animée par le pasteur, c'est une émission qui est déjà bénie.
Voilà, nous accueillons avec plaisir cette bénédiction. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Votre émission s'intéresse ce soir à cette déclaration, mieux cette analyse du processus électoral. Le processus électoral, justement, en République démocratique du Congo est en péril au stade actuel au regard de la détérioration croissante du contexte sociopolitique et du manque de consensus des parties prenantes. Déclaration de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL en sigle. Déclaration faite hier mercredi à Kinshasa devant la presse. Pour le coordonnateur de cette structure, la gestion du processus électoral en cours s'écarte de la consolidation de la démocratie. La CIMOCEL recommande le consensus. Jean-Désiré Kanyama.
Évoquant la question relative à l'audit du fichier électoral, la CIMOCEL indique que les chiffres de la CENI démontrent des accroissements inquiétants du nombre d'électeurs dans certaines provinces. Emmanuel Kazadi.
Ceci révèle que cette répartition des sièges a été opérée sur la base d'un fichier instable.
Parlant de la machine à voter, la CIMOCEL dit relever des controverses et un manque de consensus des parties prenantes.
Cette situation fragilise davantage le consensus nécessaire pour la tenue d'élections crédibles et apaisées. L'abandon de la machine à voter ne préjudicie aucune contrainte du calendrier électoral.
La MOE CIMOCEL note que la liste des partis et regroupements politiques a été publiée en violation de l'article 54 de l'accord de la Saint-Sylvestre.
La liste transmise par le ministère de l'Intérieur consacre la continuité du dédoublement et même l'omission de certains partis politiques.
La CIMOCEL épingle aussi des violations des libertés de manifestation et des droits humains. Et pour éviter la perturbation du calendrier électoral, cette structure invite toutes les parties prenantes à s'impliquer davantage dans les processus et à se l'approprier en l'améliorant.
Voilà, Emmanuel Kazadi, que nous avons écouté dans ce reportage, est actuellement avec nous en studio. Il est coordonnateur adjoint de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL en sigle. Marcel Emmanuel Kazadi, le processus électoral en RDC est-il vraiment en péril ou bien la CIMOCEL force un peu sur la terminologie pour provoquer des réactions urgentes?
Merci, monsieur le journaliste. Il faut distinguer une chose. Les élections s'inscrivent, l'organisation des élections peut s'inscrire dans trois phases. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale et il y a la phase post-électorale. La phase préélectorale, lorsque vous l'observez, vous allez vous rendre compte qu'elle est une phase préparatoire. On sait qu'il y a les lois, les cadres légaux. Et puis il y a aussi le travail qui est en train d'être fait par l'administration électorale. Et pour notre cas, on a relevé certaines lois, la loi électorale, on a relevé certaines dispositions qui devaient permettre l'agencement de l'organisation des élections. Mais en même temps, on a vu la centrale électorale s'employer à une grande activité qui est celle d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et le tout devait permettre d'avoir un fichier électoral, donc au vu duquel chaque citoyen électeur devrait arriver à exercer ce droit le moment venu. Le contexte tel que nous l'avons observé, l'analyse du contexte, certes, préélectoral, laisse entrevoir certaines inquiétudes quant d'abord aux préparatifs, certes, mais quant à l'implication des parties prenantes au processus électoral. Si les préparatifs nous ont amenés à un certain niveau à avoir aujourd'hui un fichier électoral, mais nous avons salué le fait que la CENI l'a soumis à un audit par une organisation qui en a l'expertise, mais que cet audit a mis à nu certaines insuffisances, certaines faiblesses à ce sujet. Mais non seulement ça, nous voyons aussi l'implication des parties prenantes, notamment les partis politiques, qui, il y a peu, sont revenus encore à cet audit et pour donner un point de vue qui ne semble pas permettre les conditions des compétitions. Alors, nous nous sommes posé la question, tout ceci a été fait pour quel résultat? Voilà pourquoi notre mission, qui est une mission d'observation de long terme, qui travaille sur l'analyse, le collecte des données en tenant compte des normes standards internationaux en matière électorale, a pu relever un certain nombre de faits.
Parlez-nous-en, est-ce qu'il y a justement quelques faits marquants ou un ensemble de faits?
Nous prenons le cas du fichier électoral. Nous l'avons dit, le fichier électoral, tel que nous l'avions connu, nous l'avions en 2011, a fait l'objet d'un audit de l'OIF à un certain moment. Pourquoi ? Parce qu'il contenait des doublons et ce fichier n'était pas inclusif, on sait qu'il ne prenait pas en compte les jeunes majeurs. Nous avons remarqué par la suite qu'avec le fichier actuel, on a pris en compte un certain nombre de données, mais que le fichier tel qu'il est présenté au regard des recommandations de l'OIF est perfectible. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'empreinte, mais qui sont enrôlées, 16%. Vous savez ce que ça représente par rapport à ça, c'est à peu près 1 million d'électeurs. Mais qu'il y a aussi des personnes, des doublons qui ont été radiés, certes. Mais à partir du moment que l'OIF demande à la centrale électorale de faire un travail progressif, c'est-à-dire de corriger ces écarts, qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là? La mission se pose la question. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Faudrait-il que la CENI prenne en compte le fichier tel qu'il est, en contradiction avec les parties prenantes? Certaines parties prenantes, notamment les partis politiques qui sont en compétition électorale, tout cela sont des questions. Ça peut nous amener à quoi?
Emmanuel Kazadi, oui. Vous, dans votre déclaration, vous insistez notamment sur la détérioration du contexte sociopolitique et le manque de consensus. Allons-y sur ces deux aspects. Quel est ce contexte sociopolitique qui s'est détérioré? Quels sont les éléments que vous épinglez?
Le contexte sociopolitique tel que nous l'observons, il est délétère. Je ne suis pas là.
Est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Des cas, des éléments précis.
Nous parlons des cas de liberté, l'exercice des libertés publiques, par exemple. Nous parlons des questions liées aux droits humains. Nous parlons des questions liées à la sécurisation du processus lui-même. Parce qu'on observe des foyers de tensions, il y a de l'insécurité, on relève bien nombre de ces faits-là.
Alors, concernant le consensus politique, vous savez très bien que la majorité ne va jamais être d'accord avec l'opposition et vice-versa. Quel type de consensus auriez-vous souhaité avoir quand on sait que les deux camps ne peuvent jamais penser la même chose?
Je le disais tout à l'heure, une chose que nous devons relever, c'est que, au regard de la déclaration qui venait d'être faite par les partis de l'opposition, au sujet de l'audit du fichier électoral, ou tout au moins des recommandations de l'EIF, il y a crise de confiance entre l'administration électorale et les partis politiques. Alors, quel type de consensus autour de cette question du fichier électoral. C'est la raison pour laquelle nous, dans le cadre de la mission qui est la nôtre, nous privilégions maintenant la voie de l'audit citoyen du fichier électoral. De telle sorte que le résultat qui en sortirait peut arriver au moins à mettre d'accord les acteurs qui sont en compétition électorale. Sinon, laisser comme ça, ce serait faire persister encore des cas de contradictions. Et aussi longtemps que le processus est en train d'évoluer et qu'il y a d'une part ceux qui pensent qu'on doit aller aux élections et d'autre part ceux qui estiment qu'on ne doit pas aller aux élections au motif de tel ou tel autre fait, Nous attirons l'attention, d'où
merci,
notre appel à la conscientisation.
Merci Emmanuel Kazadi, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Marcel Makolokotambola, pasteur et communicateur de la majorité présidentielle, comment en est-on arrivé à ce péril dont parle aujourd'hui la CIMOCEL?
Je n'utiliserai pas le mot de péril.
Vous utiliserez quel mot?
Je n'utiliserai aucun mot alarmant, parce que cette manière de présenter les choses, cette manière apocalyptique de présenter les choses me pose question. Parce que au moment où le monde entier regarde le Congo, nous sentons un frémissement positif.
Mais on est devant un contexte. Comment analysez-vous le contexte du processus électoral actuel?
Le contexte d'aujourd'hui permet d'être optimiste. Parce que nous avons enrôlé près de plus de 40 millions d'électeurs, ce qui n'est pas rien.
Parmi lesquels il y a eu au moins 6 millions de doublons, parmi lesquels on vient encore de découvrir plusieurs milliers d'irrégularités.
Attendez, en termes de doublons, dans tous les processus électoraux au monde, ça se passe. Parce que ce qu'on appelle doublon, c'est que parfois quelqu'un vient deux fois, ou peut-être que dans les fichiers, on a enrôlé quelqu'un au mois de janvier, quand vous faites l'audit, il est décédé. Ce sont des questions qui se passent partout dans le monde et de la même manière.
Il est quand même relevé plus de 10 millions de soi-disant nouveaux jeunes majeurs, mais qui, à la date d'élection, ne le seront pas.
Vous savez, si vous avez suivi les résultats de cet audit, vous allez pas être du côté des alarmistes. Parce que cet audit, qu'est-ce qu'il dit? 77% des cas réguliers. 77%. Ça veut dire il n'y a que 3% qui manquent pour qu'on atteigne la grande distinction. Ça, c'est une chose. On n'échoue pas avec 77% des voix. Ça, c'est une chose. Deuxième point. D'abord, cet audit montre qu'il y a 51% des femmes, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui vont voter cette fois-ci par rapport au nombre des hommes qui s'élèvent à 49%. Bon, les 23% restants, on parle des problèmes liés à l'illisibilité des empreintes digitales. Vous savez, nous sommes dans un pays comme le nôtre où 70% de la population vit de l'agriculture, vit de l'artisanat minier, vit de métiers qui recourent à l'usage de la main.
Mais vous, est-ce
ça veut dire que on peut aller faire l'exercice de mettre le doigt sur des machines et qu'on constate après l'illisibilité de ces empreintes digitales. Mais ça pose aucun problème dans la mesure où même l'OIF a demandé à la centrale électorale de poursuivre le travail de contrôle de toutes ces questions-là pour régulariser les choses. Donc on ne peut pas, après 77% d'électeurs normaux, être alarmiste. Ça, c'est une chose.
Alors,
une deuxième chose.
Allez-y.
Une deuxième chose. Nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas alarmistes. Vous nous voyez d'ailleurs nous déployer sur le terrain, parce que chez nous, le mot d'ordre est les élections. Nous allons aux élections. Nous ne nous posons pas deux questions. Il a fallu qu'on ait les élections en 2016. Nous ne les avons pas eues pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant, nous sommes, je vais même dire que nous sommes pressés pour aller aux élections. Si nos amis de l'opposition continuent à tergiverser. C'est leur affaire et nous prenons le peuple congolais à témoin. Mon ami a dit ici qu'il y a un problème lié aux libertés publiques. Quelles libertés publiques? Quand vous voyez que les partis politiques, y compris de l'opposition, commencent à faire des manifestations. Vous n'avez pas suivi dernièrement l'IDPS faire sa grande manifestation qui a d'ailleurs réussi à la place Sainte-Thérèse d'Angélie. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu cet effort pour casser la question du dédoublement d'un certain nombre de partis politiques. Les efforts doivent continuer. De la part de la CENI, il faut que les efforts continuent. Mais de notre part, en tant que majorité présidentielle, nous disons point besoin de nous alarmer outre mesure. Le peuple nous attend aux élections, eh bien, allons-y tout de suite.
Marcel Makolokotambola, vous avez relevé deux aspects où, selon vous, les signaux sont positifs, le fichier électoral et les libertés des citoyens. Mais permettez-moi de vous présenter aussi l'autre partie du contexte, hein, l'autre partie du contexte qui peut légitimer le terme péril dont parle la CIMOCEL. Ce péril n'est pas encore là, mais il y a des éléments qui peuvent le démontrer. La CENI, par exemple, et le fichier électoral, hein, y compris la répartition des sièges, malgré les éléments positifs que vous venez de montrer, qui sont toujours aussi contesté, le calendrier non respecté, la tripartite CENI, CENSA et gouvernement qui enregistre des réunions ratées, notamment la réunion d'il y a quelques jours. Est-ce que le mot péril n'a pas un peu sa place dans
non,
ce genre de cas?
Non, pas du tout. Je n'utiliserai pas de termes alarmants, je vous le répète. Ne comptez pas sur moi pour continuer à faire pleurer le peuple.
Mais
le peuple
avec ces
n'a
éléments
pas besoin...
Là,
non, ces éléments-là sont des éléments qui sont tous les jours en train d'être surmontés. Mon cher frère, est-ce que l'État congolais, le gouvernement de la République est en train de rendre disponibles les moyens pour que l'organisation des élections soit une réalité? La réponse, c'est oui. Est-ce que tous les mois, il y a des moyens donnés à la CENI? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a la loi électorale? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a la loi sur la répartition des sièges? La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que sur le plan des moyens financiers, l'État fait d'énormes sacrifices. Sur le plan de choses liées à la loi, à l'arsenal législatif, les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Ce qui manque, c'est le fait que nous avons en face de nous une opposition qui a peur d'aller se soumettre au verdict des urnes. C'est pour cela que je dis à nos amis de l'opposition, il ne faut pas rechercher dans la rue ce qu'on se voit incapable d'avoir par les urnes.
C'est pour ça que nous, de notre côté,
nous ne faisons pas la démocratie de la rue. Nous faisons la démocratie des urnes.
Merci Marcel Makolokotambola. Nous revenons à vous pour un deuxième partage de la parole. Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, mais aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, a été en sigle. Péril ou pas péril pour vous?
Merci Donna. Péril ou pas péril? Du moins, je parlais d'un terme qui pourrait apaiser les uns et les autres. En ce qui concerne notre poste électoral, pour ne pas utiliser le terme péril, mais on peut dire, avoir le courage de dire que notre poste électoral a du plomb dans l'aile. Ce plomb dans l'aile doit être l'objet d'un diagnostic sur l'état des lieux du poste électoral. Nous devons nous poser la question que le poste électoral congolais, qui est un poste électoral atypique, dont les élections n'entrent pas dans le cadre des organisations classiques, est-ce que l'environnement électoral, cet environnement électoral est-il apaisé, oui ou non? Nous disons que l'environnement électoral n'est pas apaisé. Parce que il suffit pas d'organiser les élections apaisées sans partir d'un environnement électoral apaisé. Il faut partir d'un environnement électoral apaisé pour avoir des élections apaisées. Et nous devons aussi nous poser la question, ces élections vont se tenir dans quel contexte politique? Ça va se tenir dans un contexte politique caractérisé par la méfiance
total entre les parties prenantes au processus électoral. Par partie prenante au processus électoral, nous avons l'opposition politique, nous avons la majorité au pouvoir et nous avons aussi les partenaires techniques et financiers. Et il y a des méfiances réciproques qui ne favoriseraient pas la tenue des élections apaisées. Et nous devons aussi voir les cadres juridiques et institutionnels qui vont régir nos élections atypiques. Par cadre juridique, est-ce que notre institution parlement est en mesure d'apprêter les certaines lois liées à l'organisation des élections en un temps record? Est-ce que notre cadre institutionnel, le gouvernement de la République, qui a pris mandat, qui a fait un pacte avec la Commission électorale nationale indépendante sur ce qu'on appelle le plan de décaissement de fonds, qui établit des timings de décaissement de fonds par mois ou bien par trimestre, est-ce que notre gouvernement a cet engagement de décaisser suffisamment de fonds pour que le rendez-vous du 23 décembre 2018, la tenue des élections des trois scrutins combinés puissent être respectés. Et nous passons aussi au défi. Parce que l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, on se rend compte que le cursus électoral ou le serpent électoral commence à s'écarter de l'autoroute des élections. L'autoroute des élections, c'est cette ligne droite. Or, le cursus électoral, au lieu de suivre le serpent électoral, au lieu de suivre la ligne droite, commence à s'écarter. Et c'est de là où on doit tirer la sonnette d'alarme pour dire pourquoi ça commence à s'écarter. Ça s'écarte parce qu'on doit faire face aux défis organisationnels. Il y a des défis techniques qui ont été relevés par la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, dont je faisais membre du comité d'équipe d'audit de cette mission.
La commission ad hoc.
Donc on devait faire face aux défis techniques, faire face aux défis politiques. Les défis politiques, aujourd'hui classe politique, est devenu une chaîne de faïence. Ils se regardent avec méfiance totale. Est-ce qu'on peut aller aux élections avec cet environnement? Nous disons non. Et les défis sécuritaires, donc il faut sécuriser les uns et les autres. Maintenant, nous posons la question. Si le processus électoral est en péril ou bien a du plomb dans l'aile, que faire? Est-ce que nous devons abandonner? Nous disons non. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons transformer le péril qui n'est pas encore arrivé au bout. Parce que le rapport de nos collègues ce matin n'ont pas dit que le processus est déjà enterré. Non, ils n'ont pas un langage. C'est déjà enterré. Mais ils disent en péril. C'est à nous de voir comment... C'est l'incendie qui commence. Comment mettre fin à cet incendie qui est en train de naître? Et c'est pourquoi nous disons... Nous, on nous a fait des recommandations à court terme par la mission d'organisation de l'audit. Et aujourd'hui, on parle de 16,6% de ceux-là qui n'ont pas des empreintes. Et du fait, ça représente 6 647 583 électeurs. C'est vraiment énorme. Énorme du fait qu'il y a autant de le moyen de temps que le gouvernement, le trésor public a consenti pour ces gens-là. Mais pourquoi nous passons c'est ça? Nous parlons aujourd'hui de doublons. C'est parce que nous connaissons, nous n'avons pas la culture des fichiers d'état civil. Nous n'avons pas le recensement depuis 84. Les données statistiques qui nous ont amenés aux élections de 2006 et 2011, c'était des données statistiques avec une marge d'erreur trop élevée. Donc, on devrait s'investir. C'est pourquoi je reviens sur les recommandations de l'OIF. On demande à court terme au gouvernement de la République qu'on puisse, que la CENI puisse faire transfert de ce matériel d'enrôlement des électeurs au ministère de l'Intérieur, à l'ONIP, à l'Institut national des statistiques, au ministère du plan, pour que toute affaire se sente, qu'on s'investisse dans le recensement de la population. À ce moment-là, nous aurons, avec précision, parce qu'avant les élections de 2006, gestionner les capitales américaines et européennes, et autres pour dire les Congolais ne devaient pas aller aux élections sans recensement, parce qu'on ne parviendrait pas à procéder au découpage des circonscriptions électorales avec précision. Ce qu'on fait comme découpage aujourd'hui, ce sont des estimations de projection. Aujourd'hui, on décrit le Sankuru et le Tchouapa ont eu autant de lecteurs plus que d'autres provinces. Oui, ils ont eu ça. Mais si aujourd'hui vous allez intenter un procès contre le Sankuru et le Tchouapa, on va vous demander un soubassement démographique. Est-ce que vous avez un soubassement démographique pour démontrer que le Sankuru est plus peuplé ou bien moins peuplé?
Jérôme Bonceau, dans votre intervention, vous parlez du recensement. Est-ce que vous impliquez le recensement pour ce cycle électoral qui va nous conduire aux élections en décembre, ou bien vous l'envisagez pour les échéances à venir.
C'est pour les échéances à venir. C'est pour dire que nous serons encore rattrapés par ces mêmes discours. Nous avons été rattrapés en 2006. En 2006, on a cru que le recensement allait avoir lieu en 2000, les élections de 2001. On pouvait faire. Ça n'a pas eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, ces débats allaient encore revenir. Nous allons encore être rattrapés par les commandes de kits où les milieux affairistes vont savoir qui va passer le marché avec la RDC. Et c'est l'Europe et c'est l'Asie. C'est pourquoi nous disons ici à l'heure qu'il est. Pour que notre processus puisse être recadré, nous demandons aux uns et aux autres de voir que le rendez-vous du 23 décembre 2006 pour l'organisation des élections dans le calendrier électoral puisse être respecté. Et vous savez que, je vais m'arrêter par là, il y a la problématique maintenant de l'enrôlement des Congolais de la diaspora. La CENI a dit que techniquement ce n'est plus possible. Or, à son temps, j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dire que l'on devait faire sortir dans le calendrier électoral de la CENI, qui a parlé de 17 contraintes, la CENI devait mettre dans son plan, dans sa planification opérationnelle, mettre cette question de la problématique de Congolais de la diaspora comme 18e contrainte d'ordre technique, parce que la diaspora devait être répertoriée dans 4 zones, zone Afrique, Amérique, Asie, ainsi de suite. Merci. Les zones devaient représenter les provinces. Merci. Comme les 3 mois. Et à ce moment-là, tout le monde n'allait pas être frustré, ni aussi de voir aujourd'hui qu'on va demander à l'Assemblée nationale de changer la loi pour que les Congolais de la diaspora ne puissent pas participer au prochain scrutin.
Merci Jérôme Bonso. L'heure est arrivée aussi de partager le point de vue de nos auditeurs. Vous allez d'ailleurs réagir à des réactions bien spécifique. D'ailleurs, d'abord, les gens qui sont plus ou moins d'accord avec l'analyse de la CIMOCEL, c'est notamment Patrick de Lubumbashi qui dit cette structure fait une... plutôt que les gens qui sont contre cette analyse, cette structure fait une lecture biaisée du processus électoral et veut tout simplement jeter une confusion dans l'opinion, d'autant plus que la machine n'est pas bloquée quelque part. C'est un peu ce que disait le pasteur Makoloko Tambola. Et puis, nous allons donner la parole à Franklin Matunaini, lui qui est à Bukavu, de préciser sa réflexion.
Je suis Franklin Matunaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Cette structure devrait un peu analyser objectivement le processus électoral avant de faire cette déclaration qui, à mon avis, est à côté de la réalité. Car le calendrier tel que publié par la CENI est jusqu'ici respecté étape par étape, ce qui présage des élections à la date prévue. Tout ce qui se dit par des acteurs politiques ne devrait pas dicter les analyses des organisations indépendantes. Car parmi ces acteurs, il y a ceux qui veulent aller aux élections et d'autres non. Et ce sont ces derniers qui nous plus de prétexte. La consolidation de la démocratie passe par la tenue des élections. Attendre trouver un consensus entre acteurs politiques congolais, c'est rêver debout, car les acteurs politiques congolais demeurent des éternels rebelles au consensus politique. D'où il faut aller vite aux élections, car les conseillers se plongent davantage les institutions dans l'illégitimité et les bonus auxquels ils bénéficient déjà.
Emmanuel Kazadi, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion?
Oui, c'est vrai, ça c'est la lecture de notre ami. Il y a lieu de relever une chose. Le contexte sociopolitique de notre pays, tel qu'il se présente, ne peut pas nous permettre la tenue, l'organisation des élections dans les bonnes conditions. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que les élections sans confiance entre parties prenantes ne sont pas susceptibles de consolider la démocratie. Parce que les contestations qui adviendraient des résultats pourront remettre davantage en cause et les institutions qui seraient élues de la manière qu'on pourrait imaginer, et même les dirigeants. À quoi bon? C'est la raison pour laquelle nous, en tant que mission d'observation, faisant un travail d'analyse, de collecte de données et faisant des propositions, des recommandations aux parties prenantes, nous nous inscrivons dans ce chemin-là, lequel devrait nous permettre, à l'heure qu'il est, à la CENI par exemple, de présenter un chronogramme au regard des recommandations de l'OIF, parce que le travail doit continuer. Mais qu'est-ce que la CENI attend maintenant pour dire à l'opinion, aux parties prenantes, que voilà, au regard de ces recommandations de l'OIF, au sujet du fichier électoral, voilà ce que nous devons maintenant faire.
C'est question de mettre tout le monde en confiance. Ça, c'est une chose. Une autre chose, on ne passe pas à côté de la réalité. Peut-être parce que on voit autrement les choses. Non. Les élections sans transparence, les élections sans des mécanismes de collaboration, sans des mécanismes d'implication des acteurs des parties prenantes, ne peuvent pas être susceptibles de créer les conditions de paix. Or, comme je le disais, nous devons considérer, et c'est ça le point de vue qui est même l'option de la Simoncelle, nous devons travailler avec l'administration électorale de manière à ce que les résultats qui sortiraient de l'audit citoyen du fichier électoral puissent converger vers la mise en œuvre des conditions de compétition qui puissent satisfaire toutes les parties prenantes. Et ça, nous pensons que c'est l'option qui nous reste au jour d'aujourd'hui.
Alors, nous donnons la parole à ce deuxième auditeur dont la réflexion est orientée auprès de Marcel Makoloko Tambola. Alors, Corneille Moubabingé de Kananga a émis cette réflexion.
Corneille Moubabingé à Kananga, le coordonnateur de Simoncelle. Il n'y a pas de consensus dans le processus électoral, car la CENI décide d'aller aux élections avec la machine à voter. L'opposition dit non. Une frange de l'opposition exige la transition sans Kabila, le non-respect de l'accord de Saint-Sylvestre, l'audit corrompu du fichier électoral selon l'opposition, etc. Avec toutes ces situations, nous risquons de ne pas avoir encore des élections cette année, ou soit d'aller aux élections qui sèmeront beaucoup de troubles dans le pays. Ainsi, pour y arriver, il faut que la CENI retire d'abord la machine à voter pour apaiser les esprits des uns et des autres, car le retrait de cette machine ne perturbera à rien le calendrier électoral.
Marcel Makoloko Tambola, Corneille, semble soutenir la Simoncelle.
J'ai beaucoup de respect pour Corneille, mais cette affaire de transition sans Kabila est une hérésie juridique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, transition sans Kabila? Nous avons une constitution dans ce pays. Donnons-nous les moyens de la respecter. La constitution dit, à l'article 70 alinéa 2, la chose suivante. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Voilà pourquoi...
Toujours est-il que le président de la République peut, à tout moment, décider de renoncer à un mandat qui lui reste. Voilà. François Hollande l'a fait, beaucoup d'autres personnes l'ont fait. Est-ce que vous pouvez réagir à la position de Marcel Corneille?
Je ne vais pas parler de François Hollande, moi je parle de la constitution congolaise, article 70, alinéa 2. Transition sans Kabila, ça n'existe pas, parce que c'est pour cela que nous, à la majorité présidentielle, nous voulons très vite aller aux élections.
Corneille insiste sur l'environnement actuel qui n'est pas rassurant.
L'environnement est, de notre point de vue, rassurant. Ce qui manque, c'est nos amis de l'opposition qui multiplient des subterfuges pour ne pas aller aux élections.
Mais Marcel Makoloko-Tambola, est-ce que la Simoncelle n'avait pas déjà raison en 2017? Vous pouvez vous rappeler, hein, la Simoncelle ne me démentirait pas. En septembre 2017, la Simoncelle avait interpellé les parties prenantes au processus électoral sur le consensus. Et aujourd'hui, on est en 2017, toujours pas d'élection.
Ok, parce que vous parlez parce que vous parlez de consensus autour de la machine à voter, par exemple. Cette histoire de la machine à voter, est-ce que vous savez que c'est une histoire de marché? Tout simplement. Il y a une série de sociétés occidentales qui est venue ici présenter la machine à voter à la CENI. Tout simplement parce que la CENI,
vous avez dit que la CENI a cédé à un marché?
La CENI a refusé.
Ah, mais on est là à parler
selon
de la
machine à voter. Selon les termes de notre loi, a refusé l'offre de ces firmes occidentales et a opté pour cette firme sud-coréenne qui ça a posé problème. Et d'ailleurs, ces gens-là, ces occidentaux-là, ne se sont pas cachés. Ils sont venus raconter à tous ceux qui voulaient les entendre ici que parce que le Congo a refusé d'acheter nos machines, eh ben, il n'y aura pas d'élection au Congo sans nos machines.
Mais Marcel Makologo Dambola, est-ce qu'on n'est pas là en train de revenir sur la position de la majorité qui veut une machine et l'opposition qui n'en veut pas?
Le consensus, ça n'est pas la majorité.
Okay.
Le problème, c'est la CENI. Le problème, c'est que tous les discours qui se développent autour de la machine à voter est un discours jeté dans l'opinion par les gens qui ont perdu le marché. Ce qui est dramatique, c'est que même les intellectuels congolais se font l'écho de ces discours, commencent à parler en lieu et place des opérateurs économiques occidentaux, tout simplement parce que ceux-ci n'ont pas eu à vendre leurs machines au Congo. Notre problème, en tant que majorité présidentielle, nous disons que la machine n'est pas en cause. Qu'on aille aux élections avec tous les moyens nécessaires que la CENI nous présentera. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous préparer à aller aux élections. Mon ami Bosso dit une chose qui m'a vraiment fait beaucoup mal. Quand il rappelle la question du recensement. Vous savez, à une certaine époque, j'ai été conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Nous avons, à ce moment-là, posé la question au Parlement relatif au recensement. 2015. Vous savez ce que cela a coûté à ce pays? Les enfants de ce pays sont morts parce que l'opposition a manifesté contre le souci de faire le recensement. 3 ans après, l'Occident, l'OIF vient nous dire recensement, on commence à trembler parce que l'OIF a dit. Évariste Boshab,
merci.
Mon ministre, l'avait demandé il y a 3 ans. Si on avait écouté la majorité en ce moment-là, on n'en serait pas aujourd'hui à se poser des questions sur pourquoi 16% n'a pas d'empreinte digitale.
Merci.
À un certain moment donné, ce que nous demandons à nos amis de l'opposition...
Nous allons passer la parole à vos débatteurs.
Je finis juste. Pourquoi refuser de faire les choses à leur temps? Pourquoi tergiverser chaque fois? Pourquoi ne pas avoir le courage d'aller dans les fonds des choses?
Merci.
Pourquoi commencer à pleurer le recensement aujourd'hui, 3 ans après avoir fait tuer les gens?
Ce n'est
pas acceptable et ce n'est pas bon.
Marcel Makologo Tambola, c'est une bonne question qui va revenir sur la table, j'imagine, au moment des débats pour trouver le consensus dont parle la CIMOCEL. Le temps de partager cette réflexion à Jérôme Bonso, des gens qui semblent nuancer l'avis aussi bien de la majorité que de la CIMOCEL. Il y a John Odian, par exemple, qui dit « Je partage partiellement la déclaration de la CIMOCEL sur l'opposition électorale en RDC, ne pas reconnaître quelques avancées enregistré dans l'opposition électorale, entre autres la loi sur la répartition des sièges, l'audit externe et la recommandation de l'OIF ne serait pas une bonne chose. Ça c'est aussi pour rejoindre le point de vue de Marcel Makologo Tambola. Mais pour l'instant, nous allons écouter en audio Adonis, qui est à Kolwezi, partager son commentaire.
Adonis Kamungwa, à partir de Kolwezi, province du Lualaba. La déclaration de la CIMOCEL n'est pas une nouveauté dans le remords du désespoir congolais. C'est du déjà entendu non actif. Malgré tout, le monde entier est témoin de toutes les manigances du pouvoir qui conditionnent délibérément ces élections dans un climat flou et propice pour un virage fatal de la date historique du 23 décembre 2018. Afin de se cramponner indéfiniment aux affaires de la Respublica. Je pense que les récentes déclarations des hauts responsables africains et occidentaux sont plus efficaces et actives parce qu'elles analysent, examinent, fixent des conclusions et prévoient même des solutions convaincantes dans un schéma cohérent de plans. Chose qui manque chez l'analyste congolais.
Jérôme Bonso, vous le disiez vous-même un peu tout à l'heure, hein, mais Adonis pense un peu comme la CIMOCEL que ce qui est dit là est une réalité qui existe depuis bien longtemps.
Et vous savez, c'est l'expression, cher ami Adonis, le souci que vous partagez, que nous partageons pour de voir notre processus électoral aboutir. Et c'est un processus électoral, je le répète, atypique, parce que les élections, nous le faisons, on devait les tenir dans le délai constitutionnel, qui était un délai contenu dans la loi fondamentale et qui était aussi un délai qui était récupéré par le conseil de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, nous trouvons devant un autre rendez-vous qui est la date du 23 décembre 2018 pour le 3 scrutin qui constitue une déclaration, un consensus dégagé par le Congolais qui était au dialogue du centre interdiocésain. Mais aujourd'hui, personne ne peut prétendre conditionner la tenue des élections. Les élections, c'est une affaire de la population. Le fait que vous faites ces analyses là-dessus, ça prouve une appropriation du processus électoral. Quand vous vous appropriez de votre processus, personne ne peut le prétendre le conditionner. Et la déclaration des étrangers, non. Les élections, mon cher ami, j'ai une petite expérience d'avoir sillonné le monde en ce qui concerne les élections. L'étranger n'a rien à voir des élections d'un État indépendant. Ça ne peut pas se faire. Nous avons assisté aux élections aux États-Unis, où on a publié les résultats qui ont été controversés. On n'a pas condamné. Et ça, c'est à nous-mêmes de condamner les résultats de nos élections. Quand bien la crédibilité des élections est double, crédibilité interne et externe. Mais c'est à nous de donner la crédibilité au procès électoral qui est le procès électoral congolais, pas un étranger qui viendrait nous dicter ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi nous disons ici, pour mieux comprendre le procès électoral, cher ami, je le répète, il faut faire un effort de porter les lunettes électorales à double foyer. Foyer politique et technique. Ici, le politique s'arrange à porter le foyer politique. C'est ce qui nous a mené aux élections de 2015. Nous avons condamné cela à la rencontre de l'Union africaine quand nous avons été invités pour dire Union africaine, vous contribuerez, vous porterez la responsabilité si vous conseillez le Congolais d'aller aux élections de 2015 à son temps, les élections précédentes.
Et 2011. On a eu 2006 et 2011.
Parce que c'était les élections politiques, on a accepté les élections politiques. Et aujourd'hui, nous voyons le contraire. Les élections sont en train d'être avancées par la CENI du point de vue technique. Le calendrier, les opérations inscrites dans l'opération. La CENI est en train de continuer. Aujourd'hui, on est en train de former les gens pour le bureau de réception de candidatures et ça évolue. Alors, tandis que du côté politique, là, c'est un blocage, c'est un flou et on n'entend rien.
Merci Jérôme Bonceau. Cette émission, malheureusement, tire à sa fin. Juste quelques mots en conclusion. Alors, la CIMOCEL a utilisé le mot qu'il a utilisé et l'assume. Péril en la demeure. Vous parlez du plomb dans l'aile. Mais que ce soit péril en la demeure ou plomb dans l'aile, quelle est la solution pour nous retourner vers des contextes meilleurs?
La solution se trouve dans le fait d'introduire les facteurs correctifs dans les opérations électorales, en nous référant aux recommandations à court terme en ce qui concerne le fichier électoral, parce qu'il a été constaté certaines faiblesses dans le fichier, on a constaté aussi des forces dans le fichier et des avancées que la Commission électorale nationale est en train de faire.
Merci.
Et nous voulons qu'on puisse introduire par la publication des listes provisoires et introduire ces facteurs pour produire des listes électorales fiables, ce qui est en jeu principal et fondamental de tout fichier électoral.
Merci Jérôme Bonceau. Marcel Makoloko Tambola, péril ou pas péril, quelle est la solution?
Je n'utilise pas le mot péril. Je ne suis pas pessimiste. Je suis congolais. Je veux le bonheur de mon pays et de mon peuple. La démocratie, c'est l'expression populaire à travers les urnes. Nous, majorité présidentielle, nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous ne voulons pas que les gens viennent nous chanter une autre musique pour nous faire pleurer.
Merci.
Le peuple attend les élections.
Merci.
Quand vous faites des analyses, posez-vous la question de savoir ce que veut le peuple.
Merci.
Eh bien, aujourd'hui, il veut l'élection.
Merci Makoloko Tambola. Dernier mot pour Emmanuel Kazadi. En 2017, personne ne vous a écouté. Nous sommes aujourd'hui en 2018, dans le même contexte. Quel est votre dernier mot?
Merci. Nous sommes une mission d'observation électorale impartiale et nous faisons l'analyse du contexte et nous faisons des recommandations. Nous avons pris en compte les recommandations de l'EIF lesquelles demandent à la centrale électorale, à l'administration électorale de revoir, de procéder par des améliorations du fichier. Et à ce stade, nous, en tant qu'émission d'observation de la société civile, nous nous inscrivons dans l'approche, l'audit citoyen du fichier électoral, de telle sorte que les résultats qui en sortiraient puisse crédibiliser le processus entre les parties prenantes.
Merci Emmanuel Kazadi. Cette émission est terminée. Willem Lungamba à la technique, Alain Irung à la réalisation, Pelekipe Lamondo a signé la supervision. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.